Il était une fois, trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
On est
bonjour.
Le mardi 6 janvier 2026 et bonne année à tous et à toutes.
Bonne année.
Et bon courage.
Alors on se retrouve pour la première émission de l'année qui commence comme elle s'est achevée, l'austérité pour tous. Et oui, pas de mesures tournées vers le vivre ensemble, le soin, le bien vivre. Bref, en un mot, pas de mesures sociales et écologiques qui rendent possible une vie digne. Du tout. Observons bien les choses. Macron et ses sbires promettent une année sous le signe d'une austérité encore plus forte, moyennant bien évidemment une préparation des esprits, avec la mise en place des règles portées sur un retour à l'ordre et à commencer par l'ordre moral. Tous les discours, les uns après les autres, utilisent un ton de gravité, de moralité, sur fond de menaces de guerre. Par exemple, on a tous en tête encore le discours du 18 novembre dernier lors du Congrès des maires, discours du chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, qui a expliqué que la situation internationale se, je cite, « dégradée ». Pour que le pays soit prêt dans 3 ou 4 ans, a-t-il ajouté, il va falloir accepter le risque de perdre des enfants, de souffrir économiquement. On est prévenu, les amis. On est prévenu. Mais au fait, Mandon, sait-il qu'un des principes fondamentaux de la République est que l'autorité militaire est strictement subordonnée à l'autorité politique? On a vraiment le sentiment que ça ne le préoccupe pas du tout. Bref, on parle de sécurité, de menaces de guerre, autorisant les pires propagandes sur les différents conflits existants et laissant place à un autoritarisme toujours plus effréné. Alors oui, nous, on va parler de sécurité, mais de sécurité alimentaire. Car pendant que certains organisent un avenir destructeur de vie fondé sur une société, sur le chacun pour soi, sur la peur et le repli sur soi, nous, nous parions sur l'intelligence collective et la capacité des citoyens à prendre le pouvoir pour justement organiser une vie digne et juste. Et ça commence justement par la sécurité des besoins essentiels. Et donc, c'est des besoins dont il faut partir. Et le premier besoin essentiel, c'est l'alimentation. Mais avant tout, on va faire le bilan désastreux de l'année. Vincent, toi qui as eu le courage d'écouter le discours d'Emmanuel Macron, qu'en dis-tu ?
Eh ben, j'en dis que c'est une vraie catastrophe, comme chaque année, mais là, il fait fort. Donc déjà, comme chaque fois, il commence par français, française. À peine ces mots prononcés, on sait déjà, ça va être long, solennel et surtout, bah, pas payé au SMIC. Et comme chaque 31 décembre, le président nous souhaite la bonne année. Et comme chaque année, il commence comme ça.
J'ai en ce soir de 31 décembre une pensée avant tout pour ceux qui assurent la continuité de la nation. Forces de sécurité, sapeurs-pompiers, bénévoles, soignants, travailleurs, tous ceux qui sont ce soir comme toujours en première ligne face aux difficultés.
Alors oui, merci à eux évidemment, mais une petite question que j'aurais à poser, très simple, pourquoi ce sont toujours les mêmes qui tiennent pendant que les autres encaissent ? Il y a aussi ensuite une phrase clé du discours qui est celle-là.
Grâce à l'engagement de tous, grâce à vous, nous tenons. Oui, notre pays tient.
Alors oui, le pays tient, mais il ne va pas mieux. Il ne progresse pas, il tient comme un hôpital sous perfusion, comme un salarié le 20 du mois, comme une école où les profs manquent mais font quand même. Et quand un président se félicite que le pays tient, c'est qu'il a renoncé à l'idée qu'il aille bien. Ensuite, passage obligé.
Fort de ses institutions, de ses services publics, fort de ses armées qui sont les plus efficaces d'Europe par l'engagement de ses soldats, fort de notre économie où jamais autant de Français n'ont eu un emploi, où la croissance se tient et où notre inflation est l'une des plus faibles de la zone euro. Fort de notre recherche, de notre excellence académique, de nos initiatives diplomatiques aussi, qu'il s'agisse de celles prises pour la paix, le climat ou nos océans.
Alors oui, il y a de l'emploi, mais surtout de l'emploi précaire, mal payé, épuisant. Oui, l'inflation ralentit, mais surtout pour ceux qui regardent encore le prix du beurre avant de le poser dans le caddie. Et c'est la vieille fable libérale. Si les chiffres vont bien, les gens devraient aller bien. Spoiler, ça ne marche toujours pas. Ensuite, on enchaîne avec le président qui va nous décrire ceci.
Nul n'est aveugle sur les désordres du monde et nos propres failles. Notre monde est plus dur chaque jour. La guerre et l'instabilité continuent d'être là.
Sa réponse est toujours la même. Plus de sécurité, plus de frontières, plus de contrôle. Jamais plus de justice sociale, jamais plus de redistribution, jamais plus de services publics. Quand le monde devient dur, le macronisme ne devient pas plus solidaire, il devient sécuritaire. Immigration, insécurité, trafic. Le discours ressemble parfois à une bande-annonce de chaîne info. On a l'impression d'écouter CNews, c'est fou. Alors j'ai une autre question à lui poser et à soulever. Où sont les causes ? Parce que le trafic prospère sur la misère, parce que l'insécurité augmente quand l'État recule, parce que l'immigration devient un problème quand l'accueil devient indigne. Mais parler de causes, ça obligerait à parler de choix politiques, et ça, manifestement, ce n'est pas au programme du réveillon. Alors les services publics, eux, sont applaudis. Les soignants, enseignants, élus locaux, des mots, encore des mots. On remercie ce qu'on épuise, on célèbre ce qu'on sous-finance. C'est devenu une tradition nationale, des hommages le 31, de l'austérité le 1er janvier. Moment intéressant aussi.
Quand le moment sera venu, s'ouvrira peu à peu la prochaine campagne pour l'élection présidentielle de 2027. La première à laquelle je ne participerai pas depuis 10 ans.
Alors là, on sent déjà le ton. C'est-à-dire qu'il ne transforme plus, il justifie. Ce ne sont pas des vœux de projet, ce sont des vœux de bilan. Et à la fin, il nous offre 3 magnifiques vœux.
Je veux avoir pour notre nation 3 vœux. D'abord un vœu d'unité. Mon deuxième vœu est un vœu de force. Mon dernier vœu est un vœu d'espérance.
Alors soyons clairs, pas d'unité sans égalité, pas de force sans protection des plus faibles, pas d'espérance quand les efforts sont toujours demandés aux mêmes. Alors oui, le président nous souhaite une année utile. Mais beaucoup de Français aimeraient surtout une année vivable, une année respirable, une année où tenir ne serait plus un exploit. Et ça, ce n'est pas un vœu, c'est un choix politique. Je vais finir, pas comme le président, en disant « Vive la République, vive la France », mais je vais finir en disant « Vive le peuple, vive la révolte ».
Merci beaucoup Vincent, et ça se passe de commentaires, cette intervention de Macron. Claude, un petit topo sur les actualités ?
Oui, rapidement. Donc, mensonge, recul et renoncement sur l'écologie en France. La loi du plomb. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, défend l'idée d'une réautorisation partielle de l'acétamipride et ose déclarer que cet insecticide est inoffensif pour les abeilles. Le texte de loi prévoit aussi de faciliter la construction de nouvelles retenues d'eau, bassines pour les cultures, de simplifier la construction ou l'agrandissement de bâtiments d'élevage intensif, de placer l'Office français de biodiversité sous l'autorité des préfets, alors qu'il relevait jusqu'ici du ministère de l'Agriculture, et de préserver l'indépendance de l'ANSES, agence chargée d'évaluer les risques sanitaires et d'examiner les demandes d'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Mercosur. Accord de libre-échange entre les deux blocs, marché commun du Sud et l'Union européenne. Cet accord est incompatible avec l'accord de Paris sur le climat de 2015. Les normes environnementales, sanitaires et de bien-être animal sont déplorables en Amérique du Sud. Dans toute l'Europe, les organisations agricoles dénoncent et rejettent le projet. Épidémie de dermatose nodulaire contagieuse. Gestion calamiteuse de la crise par le gouvernement. Annie Genevard, encore elle, a brillé par son absence sur le terrain. À la détresse des agriculteurs, l'État a répondu par la répression. Hélicoptères, centaures, contre des paysans, certains à genoux, devant les forces de l'ordre. Des paysans qui regardent, désespérés, leurs troupeaux abattus. L'A69, le 30 décembre, le verdict tombe. La Cour administrative d'appel de Toulouse a autorisé la poursuite du chantier de l'A69. Les militants ont annoncé engager un pourvoi en cassation. Seront convoqués devant le tribunal correctionnel de Castres le 7 avril 2026 pour des faits de dégradation en réunion, divulgation d'informations personnelles et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, 5 chefs d'entreprise, dont 2 élus, un sous-traitant du concessionnaire et un de leurs camarades de rugby, tous favorables à l'A69. Où sont les terroristes ? En Ardèche, projet de déviation routière à Saint-Péret. Le chantier a repris malgré les menaces sur des espèces protégées. Plus d'un hectare de végétation a été détruit. Jacques, militant de la France Insoumise, témoigne. La mobilisation existe depuis plus de 2 ans. Cette déviation est une menace sur l'agriculture et le milieu de vie. Mensonges politiques, répression policière, accrocher un dessin à une barrière vous promet plaquage au sol et arrestation. Ça continue, le grand froid tue. 2 hommes sans domicile fixe sont morts de froid le 30 décembre. À Paris, un homme est resté inanimé de 7h30 à 18h jusqu'à ce qu'un passant s'inquiète de son état. À Nice, des passants ont donné l'alerte. Un homme de 75 ans a été retrouvé dans une rue. Ils font partie de la longue, triste et révoltante liste des gens morts de la rue. L'INSEE a annoncé un taux de pauvreté record depuis près de 30 ans, 15,4%, soit près de 10 millions de personnes pour l'année 2025. Selon l'Observatoire national de la précarité énergétique, 3,1 millions de ménages français ont dépensé plus de 8% de leurs revenus pour payer les factures énergétiques de leur logement. 35% des Français déclarent avoir eu froid dans leur logement au cours de l'hiver 2024-2025. Parmi les bénéficiaires du chèque énergie, 59% déclarent avoir eu froid. Vaincre la pauvreté n'est pas un geste de charité, c'est un acte de justice. Nelson Mandela. Dans le Sud Ardèche, ça c'est une bonne nouvelle, dans le Sud Ardèche, le 4e festival du film paysan ouvrira ses portes du 16 au 25 janvier 2026. Venez à la rencontre des paysans d'Ardèche.
Oui, merci beaucoup Claude. Et après, effectivement, ces tristes nouvelles qui, je le crains, continueront d'être produites. Merci d'avoir annoncé justement la tenue du 4e festival du film paysan en Ardèche qui aura lieu du 16 au 25 janvier, organisé par la Confédération paysanne de l'Ardèche et le réseau de l'agriculture paysanne 07. Alors ces films seront suivis de rencontres, de débats, qui portent justement sur la sécurité alimentaire. Pardon. Par exemple, le premier jour, le 16 janvier, sera projeté un film « Manger pour vivre » de Valérie Simonet, qui pose la question de la sécurité sociale de l'alimentation, imaginé par un collectif d'associations à Montpellier, parce que justement, la sécurité alimentaire est évidente. D'ailleurs, le synopsis du film commence ainsi, je vous le lis. « Manger pour vivre, une évidence. En 2025, en France, une personne sur 10 a pourtant des difficultés chaque jour pour se nourrir. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. » Point de suspension. Alors, la projection de ce film a lieu au Vence. De même, le 22 janvier à Lussas sera projeté Sol couvert d'espoir. Et là, c'est un film qui va interroger les enjeux cruciaux pour la préservation de notre autonomie alimentaire. La régénération des sols, la préservation de la biodiversité et du cycle de l'eau. On connaît les dégâts monstrueux qui sont établis sur l'eau, à la fois liés aux pesticides d'ailleurs, et évidemment à la privatisation de celle-ci. Et il y a aussi évidemment d'autres films qui interrogent la nécessité de produire une alimentation de qualité, rémunératrice et accessible à tous. Bref, tous parlent plus ou moins de la sécurité alimentaire. Alors ça se passe partout en Ardèche. Là j'ai cité 2 films dans le sud de l'Ardèche, mais ça se passe partout en Ardèche. Je vous invite donc à vous procurer le dépliant de ce festival et d'aller voir tous ces films. Alors du coup, la sécurité alimentaire, c'est quoi? Eh bien, il y a une définition précise de la sécurité alimentaire qui a été proposée en 1996 à l'issue du sommet mondial de l'alimentation à la FAO. En français, c'est l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. La voici, je vous la donne exactement parce que je la trouve très intéressante. La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Voilà, moi je la trouve très intéressante parce qu'elle met bien en évidence justement la complexité de la faim. Et c'est pas qu'une question de quantité disponible en fait, de nourriture ou de niveau de production, puisque justement, mais paradoxalement, on produit assez de calories pour nourrir toute la planète. Donc de fait, cette complexité, elle renvoie à plusieurs dimensions, économiques, logistiques, et elle est aussi liée à des facteurs culturels. Et bien évidemment, une dimension essentielle porte sur la qualité nutritionnelle de ce qu'on mange. Parce que il y a donc sécurité alimentaire, hein, justement, quand toutes ces dimensions sont considérées. C'est-à-dire, au fond, comment avoir accès à une alimentation suffisante, saine et de qualité, et ce, de façon durable. C'est ça qui est important aussi. Hein. Donc, la sécurité alimentaire est une question de santé, de mauvaise qualité, et elle peut engager des risques dangereux pour la santé. Par exemple, on connaît une explosion des maladies cardiovasculaires, du diabète, etc. D'ailleurs, Daniel, je crois que tu voulais ajouter quelques chiffres.
Oui, voilà, parce qu'on dit que dans le monde, il y a plus de 2 milliards de personnes qui sont en surpoids, dont 700 millions sont obèses. Et je peux rajouter un chiffre, puisque ça donne quand même une idée des choses, c'est que la mauvaise alimentation, finalement, ça coûte 20 milliards par an. Hein, les dégâts que ça produit.
Oui, donc on voit bien que la question de la sécurité alimentaire est intimement liée et même immédiatement liée à la question de la santé publique. Et du coup, depuis 2019, l'insécurité alimentaire grandit. D'ailleurs, on se souvient des paroles du secrétaire général des Nations Unies qui avait déclaré que la guerre en Ukraine menace de déclencher une vague sans précédent de faim et de misère. C'est-à-dire que les difficultés pour des millions de personnes d'accéder à une alimentation saine au quotidien ont été décuplées. Mais ce n'est évidemment pas une nouveauté, hein, puisque cela existait déjà pendant la pandémie de Covid-19. Et donc la sécurité alimentaire n'est pas évidemment une nouvelle chose. Et surtout, chose souvent qu'on met sous le tapis, l'insécurité alimentaire, en fait, elle touche aussi les producteurs d'alimentation, c'est-à-dire les paysans eux-mêmes. Ça, c'est important de le rappeler. Alors en France, on peut lire sur le site de l'Observatoire des inégalités un entretien publié le 17 septembre 2024 avec Nicole Darmon, chercheuse en santé publique. Elle explique que l'inflation a aggravé les difficultés alimentaires d'une partie de la population, pendant que ce n'a pas été la crise pour les multinationales, hein, au passage, je le dis quand même. Alors, de fait, ces difficultés alimentaires de cette partie de la population, elles s'expliquent par le manque d'argent qui, effectivement, prive les plus précaires d'une alimentation suffisante. Et donc, de façon très évidente, il y a un risque pour la santé. Elle dit, je la cite, « On parle d'insécurité alimentaire lorsqu'une personne a manqué d'argent au cours des 12 derniers mois pour acheter de la nourriture, pour faire des repas équilibrés, pour manger à sa faim ou a été obligée de sauter des repas ou de manger moins par manque d'argent. Au total, 11% des adultes seraient concernés », dit-elle. Alors, à propos d'adultes, on peut aussi parler des jeunes adultes et des étudiants. On se souvient des files d'attente, justement, aux banques alimentaires des étudiants. Et tout cela a explosé, justement, pendant la période du Covid. Et les associations d'aide alimentaire elles-mêmes expliquent que les demandes explosent. Donc, voilà. Les questions alimentaires sont bien politiques, de fait. Et l'accès à une alimentation saine, de qualité, permettant à minima une vie digne, suppose une rupture avec des modèles économiques libéraux. Donc, il faut rompre avec le modèle agro-industriel, vraiment peu soucieux des dimensions sanitaires et écologiques. En effet, ce modèle détruit l'écosystème, tout le monde le sait, mais met aussi en danger la santé et maltraite les producteurs d'alimentation eux-mêmes, les paysans. Aujourd'hui, les riches qui s'enrichissent toujours plus, mais qui se nourrissent eux sainement, empoisonne à petit feu la vie de la plupart des citoyens, à commencer par les plus précaires. Alors, il est vraiment urgent de révolutionner le système agricole et alimentaire pour que tous, consommateurs, producteurs, gens en général, puissent accéder à une alimentation de qualité. Et donc, sortir de la malbouffe, dont on a évoqué quelques chiffres tout à l'heure, en encadrant l'industrie agroalimentaire et en proposant une activité agricole écologique et rémunératrice pour une vraie souveraineté alimentaire. Et ça, c'est un choix politique. Alors, Daniel, je reviens vers toi. Je crois que tu veux nous parler d'une initiative qui a donné naissance à C'est qui le patron, qui prend en considération producteurs et consommateurs. En gros, hein, c'est l'idée de faire en sorte que celles et ceux qui produisent en visant la qualité puissent aussi en vivre et que celles et ceux qui consomment puissent accéder à ces produits. C'est ça ?
Oui. Alors, la structure centrale de cette initiative, c'est qui est le patron ? C'est une coopérative. Cette coopérative s'appelle la Société des consommateurs. Elle représente les consommateurs qui pèsent pour faire changer les choses dans les rayons des supermarchés. À l'heure actuelle, cette coopérative rassemble 15 000 sociétaires. Elle appartient aux consommateurs sociétaires. Tout le monde peut y adhérer et devenir sociétaire pour un euro symbolique. Sa gouvernance est encadrée par un conseil d'administration de 16 sociétaires et qui réunit consommateurs et producteurs. Ce conseil d'administration est présidé par Nicolas Chabannes. C'est cette coopérative qui décide collectivement, toujours collectivement, des orientations et des évolutions des produits, qui assure la transparence de la démarche et qui effectue les vérifications du cahier des charges qu'ils ont eux-mêmes produit. Ils recréent également un lien direct entre consommateurs et producteurs. C'est très important, ils vont à la rencontre des producteurs et ils assurent des animations. En fait, le lien est permanent. Donc, autour de cette coopérative, il y a deux structures. J'en parle rapidement pour expliquer comment ça fonctionne. C'est comme une entité. Il y a une première société qui s'appelle C'est qui le patron. Hein, c'est aussi la marque qui est développée dans les supermarchés. Qui protège et développe la marque. Elle crée des questionnaires, établit des cahiers des charges, contractualise les engagements avec les partenaires fabricants, assure le respect du cahier des charges, etc. Donc c'est toute la création et le suivi. Et puis une troisième société qui s'appelle la société LMDM, et là c'est les fonctions plus organisation, support, communication, finance, ressources, etc. Voilà, donc c'est vite dit, hein. J'accélère.
D'accord. Et donc, du coup, de façon générale, comment ça fonctionne ?
Alors donc, toute personne, tout consommateur, pour un euro symbolique, devient sociétaire. Les consommateurs décident des produits via des questionnaires en ligne. Les producteurs, eux, indiquent ce qu'ils considèrent comme étant une juste rémunération, qui leur permet de vivre dignement. Et ensuite, le produit est co-construit et mis en service ensuite selon les critères qui vont être définis par le collectif des consommateurs. Donc c'est vraiment un travail en commun. Et puis après, il y a le suivi pour que le cahier des charges soit vraiment suivi à la lettre. À l'heure actuelle, il y a 17 produits qui ont déjà été créés, hein, collectivement. Donc du lait, des œufs, enfin lait, les bio, œufs, fromage, etc. Et donc cette intelligence collective, elle permet de créer des produits de qualité, puisqu'il y a des règles, des critères qui sont intégrés et qui composent le cahier des charges. Par exemple, les consommateurs veulent consommer des bons produits qui soient bons pour eux et bons pour la planète. Donc, c'est sans huile de palme, ni dans les recettes, ni dans les aliments donnés aux animaux. C'est le respect du bien-être animal et c'est de l'agriculture raisonnée. Donc, traçabilité, transparence, prix juste pour le consommateur et pour le producteur. La grande majorité des produits qui sont créés collectivement respectent les principes du commerce équitable. Ils sont donc éligibles et peuvent être utilisés en restauration collective.
Ah ben ça, c'est génial, hein. Justement, si on a pour projet de mettre en place, par exemple, un tarif progressif, voire même gratuit, mettre en place la gratuité dans les cantines scolaires, et une cantine avec une alimentation locale 100% et bio, ben y a peut-être possibilité, justement, d'aller échanger avec eux. Alors, tu as évoqué les principes du commerce équitable qui sont appliqués à leurs produits. Est-ce que tu peux nous en parler de ces sept principes très rapidement ?
Oui, je vais faire le plus vite possible. Donc, en fait, C'est qui le patron n'a pas besoin d'utiliser un label extérieur puisqu'ils remplissent eux-mêmes les sept critères. Et n'ont pas besoin, parce que le coût d'un label est important, hein, de l'achat d'un label. Donc, ils l'ont créé eux-mêmes et ils assurent cette garantie. Donc, le premier des principes, c'est des prix rémunérateurs pour les producteurs, basés sur les coûts de production et sur une négociation concrète et équilibrée. Hein, j'ai déjà dit que ce sont les producteurs qui fixent collectivement leurs prix. Deuxième principe, un engagement commercial pluriannuel entre les groupements de producteurs et les acheteurs. Ça veut dire que, par exemple, on établit un contrat de 3 ans avec les producteurs, avec le partenaire fabricant et c'est qui le patron. Donc, les 3 pour 3 ans. Troisième principe, le versement d'un montant supplémentaire destiné au financement de projets collectifs. Par exemple, pour le lait, 0,003 euros par brique de lait vendu sont reversés aux organisations de producteurs qui vont pouvoir ainsi collecter de l'argent pour pouvoir financer leurs propres projets. Quatrième principe, une autonomie des producteurs grâce à la mise en place d'une gouvernance démocratique dans leurs organisations. Tout le monde doit fonctionner d'un point de vue démocratique, aussi bien les producteurs que les fabricants, que les consommateurs. Cinquième principe, la transparence et la traçabilité des filières. Donc on doit pouvoir savoir exactement si le cahier des charges a été validé, utilisé. Et donc, deux types de contrôles, les visites des sociétaires dans les fermes et les usines et un groupe, une vérification extérieure par le groupe Bureau Veritas. Sixième, la sensibilisation des consommateurs à des modes de production socialement et écologiquement durables. Ça, il est rempli ce point-là, puisque c'est les consommateurs eux-mêmes qui font cette démarche. Le dernier point, c'est la valorisation des modes de production et d'exploitation respectueux de l'environnement. Donc, ça veut dire l'alimentation des vaches sans OGM, les fourrages soient locaux, et que les vaches pâturent au moins 4 mois, ce qui est... ce qui permet le bien-être animal. J'ai fait vite, hein.
D'accord, ok. Bon, eh bien, je crois que c'est quelque chose qui fonctionne bien, hein, puisqu'il y a déjà de nombreux consommateurs de ces produits, puisqu'ils sont...
15 millions, plus de 15 millions.
D'accord, super. Bon, bah écoute, Daniel, je te remercie beaucoup pour cette intervention sur cette coopérative. Alors, j'en profite pour faire la promotion, justement, d'un événement qui aura lieu le 31 janvier à l'USAS, organisé par un groupe d'action de Bergelvie de la France Insoumise, et qui, justement, va organiser la projection d'un documentaire de le patron, qui s'appelle « Nous, consommateurs », et qui raconte, justement, la démarche collective et le soutien apporté aux producteurs. Et il y aura la présence de Nicolas Chaban lui-même, de producteurs locaux. Et il y aura donc bien évidemment un débat avec les invités. Et enfin, ce sera suivi d'un apéritif. Vous pourrez trouver des stands de livres, etc. Donc ça se passe à l'USAS le samedi 31 janvier à partir de 15h. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, drôle de dame. Et on se retrouve le mois prochain.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Je suis